Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Cannes 2023, la Côte d'Ivoire obtient son ticket pour les quarts de finale. Victoire appréciée à sa juste valeur par Franck Kessié et Seko Fofana, qui estime qu'il y a encore du chemin à faire. Mais en attendant, les Ivoiriens savourent l'instant, liesse populaire dans plusieurs localités, notamment à Daloa, Mans et Boaké, où nous irons dès le début de cette édition. Hors de nos frontières, la décision du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO divise l'opinion dans les différents pays concernés. Vous en saurez plus dans quelques instants. Et puis sur le même sujet, l'invité de la rédaction qui aujourd'hui est Geoffroy Julien Kouao se prononcera. Pour l'occasion, le juriste et politologue sera avec Junior Cardin. Cannes 2023, la Côte d'Ivoire qualifiée pour les quarts de finale. Après une victoire hier lundi face au Sénégal, champion en titre, pour Franck Kessié, capitaine des éléphants, après l'humiliation subie face à la Guinée équatoriale, il fallait tout donner pour créer la surprise et pour Seko Fofana, milieu de terrain offensif, il fallait espérer jusqu'au bout.
Quand tu sors d'un match contre la Guinée équatoriale, où tu te fais tabasser devant ton public, dans le stade qui porte le nom du président, c'est vraiment, on a senti cette frustration, cette humiliation. Et c'était comme si on était les vendus de la nation. Et après le match du Maroc, on a été repêché. Je crois qu'on n'avait plus rien à perdre. Et comme on le dit, un revenant ne peut pas avoir peur. Donc on s'est dit, ouais, bien vrai qu'on va rencontrer le Sénégal qui est le tenant du titre et qui sort de 3 matchs, 3 victoires. Il fallait tout donner pour créer la surprise parce que la pression n'était plus dans notre camp, mais dans eux le camp. Et c'est ce qu'on a fait, on a répondu présent. Et Dieu merci, on a gagné. Et il y a encore du chemin à faire. C'est clair quand la Côte d'Ivoire joue mal, c'est plus facile d'indexer un joueur comme Franck Kessié parce que je fais partie des anciens et je suis aussi un des joueurs qui a le plus d'expérience dans cette équipe. Donc c'est normal. C'est normal que je reçoive les critiques pour pouvoir protéger les plus jeunes. Donc je les accepte et les critiques nous permettent de travailler et d'aller le plus loin possible.
Tout le monde pensait que c'était fini, mais on savait que voilà, il y avait d'autres résultats qui pouvaient être possibles. Voilà, on a espéré jusqu'au bout, on a eu la foi. Et Dieu, parfois, il passe par ces épreuves-là pour nous renforcer. Et aujourd'hui, on a su battre le champion d'Afrique et les gens ils vont pouvoir profiter. On a fait énormément de souffrir de personnes. Voilà, aujourd'hui, on est très heureux. On a vécu énormément d'émotions et on espère continuer et avoir la force pour continuer.
Successivement, vous avez écouté Franck Kessié et Seko Fofana, respectivement capitaine et milieu de terrain offensif des éléphants de Côte d'Ivoire. Et ce, hier, après leur victoire face au Lion de la Teranga, au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Notre correspondant à Daloa a suivi la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal dans une ambiance surchauffée au village Cannes de Lobia à Daloa. Tard dans la nuit, les supporters ont exprimé leur joie dans les rues de la ville. Après la victoire des éléphants, ils se disent confiants pour la suite de la compétition, suivant le reportage de Jean-Noël Kwame.
Alors que le Sénégal mène déjà au score d'un but à zéro, le promoteur du village Cannes à l'espace Lobia de Daloa, Michel Batté, se dit sceptique, mais garde tout de même espoir.
Notre espoir, c'est que la Côte d'Ivoire avance progressivement vers la finale, mais je commence à douter profondément. Ouais.
Surtout qu'on est à 1-0.
C'est terrible, ouais. Je me suis retourné là pour regarder ailleurs. Ils ont marqué quand même. Comme le football, c'est pas une logique, on espère qu'on va gagner.
À la pause, les pronostics vont bon train. Les supporters gardent la foi.
Du moment où on nous a appelé pour dire que vous êtes qualifié là, nous on va battre Sadio Mané.
Grâce à lui. Et mais ça bien dommage, je l'en veille, je supporte mon pays. Il y a encore de l'espoir.
Djabi Ouma, deuxième mi-temps là, on a gazé bien fait. Ça va aller, on ne te décourage pas quoi.
En deuxième période, lorsque l'arbitre indique le point de pénalty pour les éléphants, c'est l'euphorie.
Ouais, il y a du foie. On doit calmer ce but.
On doit marquer.
On a gagné le Sénégal 2-1 tout à l'heure. C'est quoi ça là?
Après les prolongations, l'épreuve des tirs au but et la victoire des éléphants, l'ambiance atteint son paroxysme au village Cannes de Lobia.
Connais Aïcha, la coupe là, c'est pour nous.
C'est trop fort. On a qualifié, on a ressuscité.
Écoute Fidèle Anissé, c'était vraiment difficile et puis serré. Dans les tirs au but, les joueurs ont fait preuve de professionnalisme. Pour la suite de la compétition, on va remporter la coupe.
Grâce à cette qualification, les éléphants de Côte d'Ivoire gardent toutes leurs chances de remporter cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Après Daloa, direction le Tonkwi pour voir comment les populations de Mans ont vécu la victoire des éléphants. Et c'est avec vous Stéphane Adams, notre correspondant de région.
Les populations ont investi les rues de la capitale de la cité des 18 montagnes, exprimé leur joie pour les éléphants footballeurs en fin de rencontre dans cette ambiance électrique.
Adamou, grâce à Tricia.
Alors dis-moi, pourquoi tu es contente là?
Non, vieillard, on a tué le sol, mais il n'y a pas mouvement même. Les Sénégalais, là, quand on a les chaises à la maison, on a tué même. C'est nous les éléphants. Ouh!
Une victoire diversement appréciée par les supporters Bamba Jacques.
Je suis content parce qu'on va pouvoir livrer un vrai match. Et le Sénégal, nous n'avons jamais gagné. Le Sénégal ne pourrait jamais nous éliminer. Voilà ce qui met mon enthousiasme.
Qu'est-ce que vous attendez encore des éléphants?
Oui, on sait que là où on est lancé, le trophée restera dans la main du président Ouattara. C'est mon souhait. C'est le souhait de tous les Ivoiriens.
Cette victoire-là, ça vient changer quoi concrètement?
Ça a tout changé. C'est-à-dire, ça va amener les Africains à faire confiance à l'aide nationale. Laisser les expatriés. Mais on a vu Emmett Faye. Quand on a vu que ça à l'époque, elle a fait les remplacements qu'il fallait. On a vu ce que t'as montré. Il n'y a pas de génie à ça. Donc, faisons confiance à nos nationaux.
Ce qui n'est pas le cas chez Dame Bleu Mireille qui salue cette victoire autrement.
On a donné un match cadeau. Donc, on dit, ça fait intéressant.
Pourquoi?
Puisque auparavant, c'était comme si c'était déjà tombé. Si Maroc ne gagnait pas, c'est comme si eux-mêmes étaient tombés, ils étaient perdus. Le match qui vient prochainement, c'est ça qui serait un bon match pour nous. Sinon, c'est facile pour dire, c'est pas un bon match. Donc, on va bien s'appliquer, bien s'améliorer aussi.
Plus qu'une simple victoire, c'est l'histoire qui s'écrit. Stéphane Adam, Mans, Radio de la Paix.
À Boaké, la victoire des éléphants face aux lions de la Teranga du Sénégal a été également célébrée. C'était l'hystérie totale dans les rues, comme le témoigne ici Joseph Assalé, notre correspondant dans le Boaké.
Combien étaient-ils les supporters et supportrices des éléphants dans les rues de la ville de Boaké? Nul ne saurait répondre avec exactitude. Pour dire vrai, les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants de tous âges, à pied, à moto ou en voiture, ont pris d'assaut les rues de la capitale de la région de Boaké pour savourer la victoire des éléphants aux dépens des lions de la Teranga.
Qui peut éliminer l'Ivoirien, il est mort. Il n'y a pas de l'homme pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de l'homme pour la Côte d'Ivoire. Ça reste ici, en crève, puis ça reste.
Bon, vraiment, je suis très heureux ce soir. Qui aurait cru que la Côte d'Ivoire allait gagner ce soir? Je n'ai pas confiance. Non, on a
ça dit, je ne peux pas faire commentaire dessus. Parce que depuis le match là a commencé, là, moi-même, je n'ai pas plus regardé le match là. Ça dit, j'étais sur mon pied, je tournais. Sincèrement dit, je n'ai pas de mots à dire si ce n'est pas pour remercier Dieu.
Drapeau ivoirien dans les mains de la foule, c'est l'hystérie totale partout où nous sommes passés.
Ce soir-là, moi, je suis très ému pour la qualification de notre pays. Aujourd'hui, on voit que les joueurs ont moué le maillot et nous sommes fiers. On prie toujours pour eux, pour qu'ils puissent continuer, que la coupe reste en Côte d'Ivoire.
Dans les matis et bars, l'on promet de faire la fête toute la nuit, car les éléphants ont mangé du lion et la suite de la compétition s'annonce prometteuse pour les pachydermes ivoiriens. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
90% de la réserve botanique de Divo, qui couvrait près de 9000 hectares dans les années 60, aujourd'hui occupée par des plantations et des villages. Information donnée par le directeur régional de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique de Divo, Yao Ongoran, nous donne ici des détails.
La réserve de Divo existe depuis les premières années d'indépendance de notre pays, mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui que cette réserve a été colonisée par des villages, par des plantations, à plus de 90%. Il y avait 9000 hectares, aujourd'hui, il y a une dizaine d'hectares qui subsistent. On peut considérer comme étant encore forêt, non colonisée. La préoccupation, ainsi qu'on a cette réserve, c'est de la reconstituer. Mais cela rencontre plusieurs obstacles parce qu'il y a les questions sociales.
Il y a un reboisement qui avait commencé. Où en est ce reboisement?
Justement, la partie dont je parle, qui est aujourd'hui considérée comme étant encore forêt, c'est la partie qui a été reboisée. Et donc, qui est surveillée par notamment l'Office Warren et Parcs et Réserves, qui dépend du ministère de l'Environnement, et le ministère des Eaux et Forêts aussi. On est en relation avec des ONG qui viennent pour reboiser. Nous ne faisons que l'encadrement technique.
Quelle ONG, par exemple?
Solidaridad International, qui est intervenue pour reboiser environ 5 hectares. Il y a eu la GIZ, la coopération allemande, qui a permis de reboiser aussi 20 hectares. Mais malheureusement, après, il y a un jeu de cache-cache. Les gens viennent notamment pour couper les bois qui ont été plantés, pour faire les plantations à nouveau.
Yao Ngoran, le directeur régional de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique de Divo, dans des propos recueillis par notre correspondant régional, Abel César Kassa. 33 coordonnateurs et inspecteurs de la Direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation de Boaké 2 ont vu leur capacité renforcée le week-end dernier sur le leadership et les qualités managériales d'un chef de service. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des centres d'alphabétisation. Comme nous le dit ici Jama Kofi Edmond, il est le superviseur d'alphabétisation à la Drena 2 de Boaké.
Cette formation a porté sur la gestion et le management d'un chef de service dans le cadre de l'amélioration des résultats au niveau de chaque centre d'alphabétisation. Il faudrait que les conseillers d'alphabétisation sachent ce que c'est que l'administration. Tous les éléments qu'il faut pour pouvoir gérer le service. Nous avons parlé de la gestion administrative d'un centre d'alphabétisation. Les écueils de la gestion administrative, les outils ou fondements de la gestion administrative et puis nous avons rappelé quelques instruments pédagogiques pour des enseignements de qualité dans un centre d'alphabétisation. La gestion administrative et le management qui vont faire en sorte que nous aurons de bons agents, de bons chefs de service pour faire la promotion de l'alphabétisation dans notre zone. La bonne gestion du service va leur permettre d'avoir aussi de bons résultats à travers leur esprit managérial, d'avoir de bons résultats dans les centres d'alphabétisation tout en formant les promoteurs, les animateurs et les coachés de sorte à intéresser les apprenants à s'adonner aux activités d'alphabétisation. En mettant en pratique des enseignements sur le terrain, ils seront de bons chefs de service et on aura de bons résultats dans nos centres d'alphabétisation. Le chef de service est toujours en rapport avec ses collaborateurs. Il les aide, il les forme. Au plan social aussi, il les aide à résoudre un certain nombre de problèmes. Et c'est ce qui fait le bon chef de service.
Jama Kofi Edmond, superviseur d'alphabétisation à la Drena 2 de Boaké, à l'instant au micro de Joseph Assalé. Hors de nos frontières, annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, la Communauté économique et de développement de l'Afrique de l'Ouest. Comment réagissent les populations de ces pays membres de l'organisation dénommée Alliance des États du Sahel? À ce propos, les avis et réactions de trois citoyens des pays concernés, joints par Jean-Claude Comé.
Bernard Bougma, journaliste à Ouagadougou. On y est depuis 49 ans, et si on sort comme ça, alors qu'il y a des implications, ce n'est pas aussi évident. Du reste, ils sont toujours membres de l'espace Yomoua, qui est l'espace économique par excellence. Donc déjà, sur le plan commercial, il y a des avantages qu'ils conservent, parce qu'ils partagent la monnaie commune, la libre circulation des biens, les avantages sur le plan douanier, sur le plan fiscal. Il bénéficie toujours de ces avantages de l'espace Yomoua. Ce n'a rien à voir avec les avantages de l'espace CEDEAO.
Alors, mais les populations, elles réagissent comment?
Les populations sont partagées entre doute, crainte, espoir. Parce que pour quelqu'un qui se rendait librement en Côte d'Ivoire, est-ce que compte tenu du fait qu'on n'est plus dans la zone CEDEAO, il nous faudra un visa ou pas? Quel va être le sort de ces différentes nationalités de ces pays qui sont installés en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin?
Docteur Traoré Abdoulaye, je suis médecin, résident à Niamey. Les grands ensembles, aujourd'hui, on en a besoin. Mais la réalité étant la réalité, comme on dit, quand quelqu'un qui a faim n'a pas le temps d'attendre que la marmite descende du feu. Donc aujourd'hui, le comportement de la CEDEAO a mis les peuples du Niger, du Mali, du Burkina à dos. Parce qu'apparemment, on oublie en fait le vécu quotidien des citoyens. Et malheureusement, on dit la nature a horreur du vide. Quand vous êtes perché là-bas et que vous décidez du sort des nations sans tenir compte des vrais problèmes des nations, eh bien, on tombe toujours dans des situations comme ça.
Bruno Dito, c'est midi, directeur de publication du journal Mali Horizon. Ce qui est dans les consciences ici, dans l'opinion, c'est qu'on ne pourra pas s'affirmer pleinement comme malien en restant sous ordre. Et donc, les populations pourraient mesurer que ça pourrait être grave, ces sanctions éventuellement, mais se dire, s'encourager à supporter le défi et advienne que pourra.
Sans transition et toujours sur le même sujet, retrouvons l'invité de la rédaction qui ce jour est Geoffroy Julien Kouao. Le juriste et politologue nous donne son avis, son point de vue sur le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Là-dessus, Geoffroy Julien Kouao répond aux questions de Junior Cardin.
Professeur Geoffroy Julien Kouao, bonjour.
Bonjour, Junior Cardin.
Professeur, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'Association des États du Sahel, décident de se retirer de la CEDEAO. Comment expliquer cette annonce?
Évidemment, ce n'est pas une surprise. En ce sens que, depuis 2020, les relations entre Niamey, Ouagadougou, Bamako et la CEDEAO ne sont pas au beau fixe. Et on s'attendait plus ou moins à un retrait de ces trois États et l'organisation sous-régionale.
Quelle est la légitimité des autorités qui ont pris cette décision?
Les autorités burkinabées, maliennes et nigériennes sont les autorités de leur État. Le communiqué a été signé par le capitaine Traoré, chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Goïta, chef de l'État du Mali, et le général Tchani, chef de l'État du Niger. Et le chef de l'État est la première personnalité habilitée à exercer le droit de légation, c'est-à-dire le droit de nouer des relations extérieures avec les autres puissances étrangères. Et dans l'espèce, on peut donc dire que ces autorités agissent selon le droit national et international.
Et malgré leur statut de militaire parvenu au pouvoir par coup d'État?
Oui, mais la cession au pouvoir par coup d'État ne pose pas le problème de légitimité. La légitimité, c'est ce qui est conforme à la volonté populaire. Vous savez, les coups d'État, il y en a eu énormément. Quand vous prenez par exemple le cas de la France en 58, le général de Gaulle est revenu au pouvoir par un coup d'État. Ça n'a pas empêché le général de Gaulle de mettre en place les institutions de la 5e République. On peut donc remettre en cause la légitimité de la constitution du 4 octobre 1958 qui aujourd'hui sert de référence à toutes les constitutions pour les États de l'Afrique francophone. Maintenant, à partir du moment où ces autorités sont les chefs d'État de leur pays, elles ont donc le droit de représenter valablement ce pays.
D'accord, donc aucun problème de légalité ne s'oppose.
Je ne le pense pas. En ce sens qu'il appartient à chaque État de désigner ses représentants. Il n'appartient pas ni à l'ONU, ni à l'UA, ni à la CEDEAO qui ne sont pas doté de souveraineté, de désigner qui peut être le représentant d'un État membre.
Mais professeur Geoffroy Julien Kouao, quelles sont les conséquences juridiques et même diplomatiques de ce retrait?
Ce retrait a été fait avec effet immédiat, selon le communiqué, ce qui viole l'article 91 du statut de la CEDEAO, qui stipule simplement que lorsque un État veut se retirer, il doit déposer un préavis dans un délai de un an. Mais là, c'est lorsque la séparation se fait à l'amiable. Alors que, au regard du communiqué conjoint des trois États, nous sommes là face à un divorce pour faute.
Au sein de la CEDEAO, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Avec ce qui arrive, est-ce que les ressortissants de ces trois pays pourront bénéficier de cette situation?
À partir du moment où ces trois pays ne font plus partie de la CEDEAO, ils ne bénéficient plus des avantages rattachés à l'appartenance d'un État à la CEDEAO. N'empêche que dans le cadre bilatéral, ces États peuvent signer des accords avec chacun des autres États membres relativement à la libre circulation des différentes populations.
Et puis avant ces trois pays, il y a eu le cas de la Mauritanie. Comment le cas de la Mauritanie a pu être géré pour qu'aujourd'hui on en soit au retrait de trois autres? Ça évolue.
Oui, vous avez totalement raison de rappeler la jurisprudence mauritanienne. C'était en 2000. Heureusement, le divorce s'est fait à l'amiable. Nouakchott s'est senti plus proche de l'Afrique du Nord que de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui n'est pas le cas ici du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui sous fond de crise avec la CEDEAO.
Mais selon la commission de la CEDEAO, elle dit même être déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique dans laquelle se trouvent ces trois pays. Mais avec la nouvelle donne, on pourrait s'interroger.
Oui, mais la CEDEAO adopte la meilleure posture parce que ce n'est pas toujours intéressant pour une organisation internationale de voir les États membres partir. Et je pense que la CEDEAO privilégie la diplomatie et c'est ce qu'il fallait faire au début.
Et après le retrait de la CEDEAO, est-ce que un éventuel retrait de l'UOMOA ne serait pas en ligne de mire pour créer certainement leur propre monnaie, ces trois pays?
Il faut dire que ces trois pays sont dans une nouvelle dynamique géopolitique. D'abord, ils ont mis en place une alliance force des États du Sahel et ils prennent des positions politiques conjointes relativement aux relations extérieures. Et donc là, on assiste à la naissance d'une nouvelle organisation internationale dans la sous-région. Il est évident que la question de la monnaie est étudiée au niveau de l'AES et que certainement la prochaine étape serait, selon toute vraisemblance, le départ de l'UEMOA. Mais je pense qu'il faudrait pour les uns et les autres avoir raison gardée et activer la diplomatie parce que la grande perdante du retrait de ces trois États, c'est surtout l'intégration sous-régionale, voire l'intégration africaine. C'est donc un véritable coup de marteau.
Professeur Geoffroy Julien Kouao, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, le juriste et politologue Geoffroy Julien Kouao était avec Junior Cardin et la fin de cet entretien marque le point final de ce 12 heures dont voici le rappel des titres. Cannes 2023, la Côte d'Ivoire élimine le Sénégal tenant du titre. Victoire appréciée à sa juste valeur par Franck Kessié-Séko Fofana, qui toutefois estime qu'il y a encore du chemin à faire. Mais en attendant, les Ivoiriens savourent l'instant. Liesse populaire dans plusieurs localités du pays, notamment à Daloa, Mans et Boaké, où nous sommes allés en début d'édition. Et puis hors de nos frontières, la décision de retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO divise l'opinion dans les différents pays concernés. Merci pour votre fidélité. À 15h, vous aurez un flash d'information, mais avant, la revue de presse avec Aoussi Potin.
Bonjour à toutes et à tous. Ils sont vraiment ressuscités. Ainsi débuterons-nous cette revue de presse en empruntant son titre de une au quotidien.